c'est très très bien, ça fait du bien de reprendre intensivement.
Oui, c'était plus intensif que ce qu'on avait.
Intensif, c'est...
Ouais. Et moi, ça m'a fait du bien parce que du coup, ça m'a challengée un peu. Et ça m'a... Pardon. Ça m'a... Voilà. Et du coup, oui, ça m'a remis la motivation de me dire « Ok, ça, il faut que je travaille ça et tout ça. » Et genre, c'était un vrai cours technique, du coup, ça fait du bien.
Oui, comme on n'était pas beaucoup aussi, c'était
ouais.
Bien.
Enfin, oui.
Elle avait le temps de regarder chacune et tout ça, c'était vachement...
Vous n'aviez pas forcément d'attente tout à l'heure, mais du coup, vous êtes contente.
Oui. Ça a dépassé les attentes non existantes.
Dans ce quatrième épisode, la classe dispensée par Mathilde Frousté vient de s'achever. Marlo, Lali, Liana et Noah viennent de retirer leurs pointes. Les professeuses Karen Juan, Dominique Perronne, Laetitia Valade et Emeline se sont approchées. Toutes s'assoient autour de l'étoile. Il sera ici question de ballet, de grossesse et de départ. Nous interrogerons aussi et surtout les différences entre les États-Unis d'Amérique et la France, qu'il s'agisse de la pratique de la danse ou du statut des danseurs et danseuses, des corps sur scène et de leur entraînement.
C'est une question toute basique, mais quel est ton ballet préféré que tu as préféré danser et où est-ce que tu l'as dansé ?
Épisode 4.
Voilà, c'est dur.
Danser outre-Atlantique.
J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un nouveau ballet, c'est mon préféré, mais sauf le lac des Signes. Je déteste le lac des Signes. Ça se dit pas trop, hein, mais j'ai horreur du lac des Signes. C'est pas du tout ma technique. Ça fait mal. Je comprends pas en plus qu'on tombe amoureux d'un canard spécialement. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être un canard. Je venant du sud-ouest, je suis pas un cygne, je suis un canard quoi. Et je me vois dans la glace, je suis là, putain, j'ai l'air d'un canard, j'ai pas du tout l'air d'un cygne. Bon, bref. Donc j'ai tous ces complexes de landaise qui reviennent. Enfin, c'est pas du tout quoi.
Le lac des canards.
Voilà, lac des canards. Bon, donc j'ai vraiment, j'arrive pas à aller en scène en me disant je suis un cygne magnifique, j'ai l'impression d'être un foie gras. Enfin, bon, bref. Ça va pas du tout. Donc le lac des cygnes, on n'en parle pas, mais. J'ai évidemment Kitri, évidemment Don Quichotte, parce que c'est un ballet, ça a été mon premier grand rôle à l'opéra, et ça a été aussi mon dernier, bizarrement. Et c'est un ballet que j'ai aussi dansé ici, à Vibouco, on avait organisé un spectacle dans Sous-Arène, avec mon papa, qui est là-bas, qui est maire de Vibouco. Donc voilà, c'est un ballet qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis assez proche du personnage. Elle vient du sud, elle est pétillante. Techniquement, pas très dur pour moi en tout cas. J'aime beaucoup Gisèle aussi parce que, pareil, c'est un personnage que j'adore. Un ballet en deux actes. C'est un ballet assez féministe, donc j'aime beaucoup. Des femmes qui sont énervées parce que des mecs ont été des connards. Bref, donc j'aime beaucoup. Myrta, c'est une féministe badass, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup Roméo et Juliette parce que qui n'aime pas Roméo et Juliette, quoi. C'est un ballet où tu meurs deux fois en scène, tu as ton premier baiser, tu as ta première nuit avec un mec, tu meurs deux fois. En plus, c'est rare les ballets où tu as la chance de mourir deux fois. Donc je sais pas, c'est un ballet incroyable quoi. Voilà. Donc je sais pas, un mix entre les trois. Je suis désolée hein, si j'ai ruiné le lac des Signes pour tout le monde à vie. Je suis vraiment désolée.
D'ailleurs, on a choisi un mot qui prie et pas lac des Signes.
Voilà, merci.
Je me demandais, oui, il y a quand même une énorme différence entre du coup la France et les États-Unis, mais genre à quel moment vous êtes dit, ok, genre je pars aux États-Unis et genre je prends cette voie, parce que j'imagine que c'était pas la voie prévue dans votre tête, on va dire, et donc je me demande juste à quel moment on décide, ok, c'est bon, je change de vie, je vais partir ailleurs, quoi.
Alors déjà, c'est tu, mais ça faisait quelques années que je me sentais bloquée à l'opéra, que j'arrivais pas à monter première danseuse, et mes coachs, mes amis me disaient tous, il faut que t'ailles ailleurs, il faut que tu prennes une année, on a la chance à l'opéra de pouvoir prendre une année sabbatique, il faut que tu prennes une année sabbatique, machin truc, et j'étais là, oui, c'est ça, et bon, je le faisais jamais, ou j'allais passer des auditions là où je savais très bien qu'il n'y avait pas de place de toute façon, donc comme ça, j'étais, tu vois, j'ai essayé, j'ai raté, donc pour avoir la paix, comme ça, ils me fichaient la paix pendant quelques mois, et il y a eu, après un concours, j'ai dansé Don Quichotte, j'ai fait Kitri, et c'était juste après un concours, et j'avais pas été promue. La fille qui avait été promue était au fin fond du corps de ballet et moi, j'avais pas été promue et je faisais le rôle de l'étoile. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas et il y avait quelque chose que j'allais être frustrée. Et il y a rien de pire qu'un artiste frustré et je voulais pas du tout être aigrie et... voilà, je voulais pas être ce genre de... Je voulais pas vieillir comme ça, je voulais pas avoir des enfants parce que j'arrivais pas à faire ma carrière. Voilà, donc je l'ai senti. En fait, il y a un truc que tu sens dans ton bide, quoi, en fait. Hein. Tu vois, et c'est... tout d'un coup, tout ce que les gens m'avaient dit, je comprenais. Alors qu'avant, je comprenais pas. Et après, ça a été très, très vite. Et c'est marrant parce que quand c'est le bon moment, j'ai l'impression que... les choses vont vite et les choses se font. Alors que oui, ça faisait un an ou deux que j'essayais de passer des auditions à droite, à gauche, que je voyageais. Enfin, c'était assez dur, quoi. Enfin, à chaque fois, j'envoyais les CV, machin, que je me déplace. Là, c'est en France que Ballet, j'ai senti que c'était le moment. J'ai passé un coup de fil, je parlais pas du tout anglais. Ils m'ont compris à moitié, je sais pas quoi, où j'ai envoyé un email dans la poubelle du site internet, juste pour vraiment pas qu'ils trouvent. Et deux jours après, j'avais un contrat d'étoile. Voilà. Donc c'était vraiment. Je sais pas, c'était le bon moment, quoi. Je crois pas au truc mystique et tout, mais j'ai quand même l'impression que quand il y a un moment, tu le sens, quoi. Comme pour avoir un bébé, c'est pareil.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous percevez une nuance entre la danse française et la danse américaine et où elle se situe?
Alors, effectivement, il y a une différence entre la danse française et la danse américaine parce qu'il y a ce qu'on appelle en danse classique plutôt... trois ou quatre grandes écoles, grands courants ou différents styles. Il y a la danse française qui est très chic, très minimaliste. Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça se voit pas. Il faut, voilà, un peu ce que je leur disais, un peu comme Zadig et Voltaire, quoi. Voilà, c'est très cher, mais ça se voit pas. Donc, il faut que faire quelque chose de très cher, qui demande beaucoup d'efforts, mais tout en ayant l'air... Catherine Deneuve, ou enfin, je sais pas, voilà, un truc comme ça, quoi. Beaucoup de travail de bas de jambe, pas beaucoup de rapidité, mais un travail de bas de jambe très précis. La danse américaine, c'est un peu tout l'inverse, c'est très rapide, très joyeux, ça vient, c'est une tradition qui vient des comédies musicales, de Broadway, donc c'est vraiment show must go on, beaucoup moins d'attention aux détails. Des fois, c'est un peu c'est un peu limite, mais les danseurs sont tellement heureux d'être en scène que le public, à la fin, chaque spectacle, le public est debout dans la salle, les gens crient, les gens... Voilà, il y a vraiment une connexion avec le public beaucoup plus grande qu'en France. Et ça, c'est vraiment... c'est chouette, quoi. Après, voilà, si on regarde les détails... C'est un peu limite des fois, mais c'est voilà, une autre façon de voir la danse. Il y a aussi l'école russe, pour faire un peu rapide, l'école russe, ce sont des danseuses très grandes, très plastiques, très très souples. Mais du coup, comme elles sont très souples, elles ont des qualités incroyables, elles sont sublimes, techniquement, ça a des limites. Quand on est aussi souple, quand on a des coups de pied aussi souples, quand on lève la jambe si haut, on n'a pas beaucoup de force pour sauter. Les fouetter, tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est très difficile et c'est difficile à maîtriser son corps quand on a d'aussi belles qualités. Mais c'est magnifique à voir. Quand c'est maîtrisé, c'est des spectacles sublimes, vraiment. Et il y a aussi un peu l'école cubaine qui est plutôt pour les hommes, où c'est une technique incroyable. Les danseurs cubains sont... connu dans le monde entier. Voilà. Donc il y a ces quatre courants de danse différents.
Et ça ne vous a pas rebuté, vous, en venant de l'Opéra de Paris, en ayant dû coup toute cette tradition française de précision, d'arriver aux États-Unis et d'avoir ce... pas flou artistique, parce qu'on imagine quand même que c'est bien travaillé, mais ce côté plus libre.
Oui. Ça a été un petit peu difficile quand je suis arrivée aux États-Unis, mais pour plusieurs raisons, en fait, parce que je suis passée... Je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas, je parlais très peu anglais à l'époque, donc arrivée dans une compagnie que je connaissais pas, un métier que je connaissais pas parce que je suis passée de soliste à étoile en 11 heures d'avion en fait. tout d'un coup je suis arrivée, j'avais un nouveau métier et c'est vraiment un métier différent d'être étoile, c'est beaucoup plus de pression, c'est pas les mêmes rôles, donc je parlais pas anglais, je connaissais pas les ballets, je connaissais pas mes collègues et en plus j'apprenais un nouveau métier, donc ça a été très difficile. au début, les gens pensaient un peu que j'étais bête parce que je parlais pas du tout anglais. Toute la journée était en anglais et on me disait bon ben là tu vas à droite, là tu vas à gauche. Je savais pas droite et gauche en anglais, donc je restais plantée au milieu. Les gens me regardaient, mais elle est débile ou quoi. En plus, venant de l'opéra de Paris, il y a une certaine il y a un certain standing que les gens attendent, donc ils s'attendaient à voir Sylvie Guillem, qui est une danseuse très très connue, magnifique danseuse française. Ils m'ont vue, bon, juste là, mais c'est quoi ce truc. Donc voilà. Mais après, c'est les États-Unis. Tant qu'on n'a pas été en scène et tant qu'on n'a pas fait ses preuves en scène, il n'y a pas de réputation qui tienne. Il faut faire ses preuves. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu la vie dure avant que j'aille en scène et avant qu'on commence la série de spectacles qui commençait 3 mois après. Donc pendant 3 mois, ça a été un peu dur parce que les gens étaient un peu là, c'est qui celle-ci quoi ? Elle va à droite quand il faut aller à gauche. On lui dit un truc, elle fait l'opposé, mais je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Donc c'était difficile. Donc oui, ça a été un peu difficile de s'adapter, mais pas que au niveau du style. C'est juste aussi la vie autour de la danse qui a été un peu difficile aux États-Unis.
Par rapport au style, pour revenir un peu à ce que vous leur avez transmis pendant cette classe, vous leur avez conseillé de plutôt faire attention à leur corps et réduire peut-être certains mouvements ou pas être forcément précise comme on a l'habitude de leur enseigner, mais plutôt de se préserver parce que finalement, ça se verra peut-être pas autant qu'on le pense.
Oui, je sais, j'imagine que vous avez entendu pendant la classe, j'ai donné quelques conseils de... Voilà, pour aider à préserver son corps. Et ce sont des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, parce que des fois, on travaille très dur dans un studio, mais quand on est en scène, il y a un orchestre, les gens sont loin, les gens voient les danseurs que de face, pas de profil. Et il y a des choses où on insiste énormément en studio qui sont absolument pas nécessaires et qui font mal au corps. Et si on m'avait dit ça quand j'avais, quand j'étais ado et que j'avais encore mon corps qui grandissait, que ma croissance n'était pas, ma puberté n'était pas finie, je pense que je me serais moins blessée. Et ça veut dire, ce qui veut dire, c'est une carrière plus longue, c'est 1, 2, 3, 4 années de plus de danser. Et sur une carrière qui dure 20 ans, c'est important quand même. Donc, je ne sais pas si elles voudront toutes être danseuses professionnelles, mais, ou s'il y en a qui voudront être danseuses professionnelles, mais c'est valable aussi pour la vie de tous les jours, quoi. Moi, je suis bourrée d'arthrose, il y a des matins, même quand je ne danse pas, je ne peux pas marcher, quoi. Et voilà, pour la vie de tous les jours, c'est aussi ennuyeux, même si elles ne veulent pas être danseuses professionnelles. Donc, qu'elles continuent à s'entraîner, à danser avec leur professeur, mais aussi qu'elles fassent attention à leur corps, quoi.
Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous entendez, parce que j'ai entendu ça dans un reportage sur vous, l'étoile vagabonde. Qu'est-ce que vous entendez par « les étoiles fixent la mode » ? Qu'est-ce que c'est les étoiles de l'Opéra de Paris ? Quelles étaient leurs modes ? Et vous, à présent, qui avez l'opportunité de fixer la vôtre, quelle est-elle ? Où ça se situe ?
C'est une bonne question, parce que... quand à l'Opéra de Paris, on grandit dans cette compagnie, au sein de cette compagnie, en ayant toujours cet objectif d'être étoile et donc de ressembler aux étoiles. Et toute ma carrière, on m'a dit, voilà, quand on fait un solo pour les concours ou pour s'entraîner, on a Agnès Le Testu qui est le Lac des Cygnes. Donc quand on fait le Lac des Cygnes, on veut ressembler à Agnès Le Testu. Laetitia Pujol qui est la meilleure dans Gisèle. Donc Gisèle doit être fait à la façon de Laetitia Pujol. Et on s'en rend même pas compte, c'est un peu, c'est pas forcément dit, mais c'est tout ce qu'on voit à l'opéra, c'est les gens qu'on voit toute la journée, avec qui on travaille toute la journée, et forcément, la façon dont ils dansent influence le corps de ballet. Et ça a été, après je sais pas si c'est mode, ou moi je dirais plutôt modèle, mais il y a une question de mode, hein, parce que c'est vrai que quand les étoiles changent, le modèle ou la mode change, donc oui, il y a sans doute une question. La mode aussi. Quand je suis arrivée au San Francisco Ballet, le directeur, c'était avant mon premier spectacle de Gisèle, le directeur est venu me voir, il me sentait un peu stressée, je pense, et il est venu me voir en me disant « Je t'ai engagée pour la façon dont tu danses, donc n'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. » Et alors là, je me suis trouvée un peu bête, parce que j'étais là « Quoi ? Ok, mais du coup, c'est quoi mon modèle ?» Ah, c'est moi-même, ok. Bon, alors il va falloir trouver des ressources, quoi, intérieures. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que du coup, au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un, au lieu d'avoir un modèle, c'est un challenge avec soi-même où on se dit, voilà, il y a le corps de ballet, toutes ces jeunes filles, et jeune homme, mais plutôt jeune fille, me regardent. Elles sont là en scène avec moi sur le côté pendant que je vais faire le solo de Gisèle. La façon dont je vais danser va peut-être les influencer, et va sans doute les influencer si jamais elles, un jour, elles font Gisèle, elles se souviendront « Ah, Mathilde, elle faisait ça ». Ah oui, et c'est pas forcément conscient, c'est aussi inconscient. C'est aussi la transmission de la danse, hein, c'est ça qui est chouette. Mais c'est comme ça, je pense, qu'on fixe la mode. C'est en scène, avoir conscience de la responsabilité qu'on a quand on a des jeunes femmes qui nous regardent et qui boivent nos, pas nos paroles, mais nos pas, en fait. Voilà, juste avoir conscience de la responsabilité.
En fait, c'est aux États-Unis que la danse contemporaine est née. Est-ce que le fait que... Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que ce que vous racontez, l'idée que vous avez pu avoir votre espace de liberté, c'est aussi l'état d'esprit qui a pu créer la danse contemporaine et qui aussi, dans la danse classique, laisse émerger la personne, en fait. La danseuse, la personne. Et je trouve que ça, c'est... Enfin, je sais, c'est pas vraiment une question, mais, non, mais je sais pas s'il y a une relation
à... Je suis d'accord avec vous, et c'est valable sur plein de sujets. Par exemple, le physique aux États-Unis. Les compagnies sont... Ça m'a surpris au début quand je suis arrivée au Centre Scoubelle. J'avais l'habitude de l'Opéra de Paris, où on a toutes à peu près le même corps, quoi, hein, un petit peu plus grande, un peu plus petite, mais on a tous ce physique longiligne comme ça. Alors que au San Francisco, ballet, il y a de toutes les couleurs, de tous les physiques, et chaque danseur est utilisé pour son physique. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui est plus athlétique, qui a des muscles un peu plus ronds, des jambes un peu plus courtes, à l'Opéra de Paris, ne serait même pas engagée. Alors que là, elle est engagée, ça veut dire qu'elle va être hyper athlétique, qu'elle va être super bonne en saut, et que ça va être un plus pour la compagnie, que ça va être, dès qu'il y a des moments, des rôles athlétiques, des rôles de feu d'artifice ou comme ça, hyper rapide, hyper technique, ça va être elle, et elle va être super bien là-dedans. Une danseuse qui est beaucoup plus longiligne, beaucoup plus fine, beaucoup plus mince, va faire plutôt des rôles d'adage, plutôt des lacs des cygnes, plutôt des rôles lyriques comme ça. Alors qu'à l'opéra, cette personne serait obligée de faire tout le répertoire. Disons que aux États-Unis, on est plus catégorisés et on y trouve nos spécialités beaucoup plus vite. Et du coup, on peut s'épanouir dans cette spécialité. Ce qui n'est pas forcément... Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins bien, parce qu'à l'opéra, en France, on est des danseurs plus complets. C'est-à-dire que moi, j'étais très bonne en pirouette. À l'opéra, c'était ma facilité. C'est pour ça que je disais, il y avait une jeune fille qui était super, qui tournait très facilement. J'avais l'impression de me voir un peu décoordonnée, mais c'est pas grave, elle tournait. C'était un peu moi, c'est pour ça qu'elle m'a fait sourire. À l'opéra, du coup, ils m'ont fait faire que des rôles de saut, parce que j'étais pas très bonne en saut. Et pendant des années, je me suis tapée tous les rôles de saut. Alors, j'allais en scène hyper angoissée, hyper frustrée, parce que j'étais là, pourquoi moi je fais pas la partie des pirouettes? Pourquoi je fais la partie des sauts? Je comprends pas. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup progressé en saut. Et maintenant, j'étais une danseuse plus complète. J'avais moins progressé en pirouette, j'étais un peu plafonnée en pirouette. C'est pas grave, j'avais un bon niveau. Mais le niveau était, voilà, assez similaire. Tandis qu'aux États-Unis, on voit que je suis bonne en pirouette, je ferai que des pirouettes. Je viendrai un des meilleurs danseurs en pirouette au monde. Je serai très contente d'aller en scène parce que je ferai ce que je sais faire. Mais du coup, à côté, t'as un peu un danseur incomplet. Et j'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu, pour faire une généralité, mais c'est un peu l'éducation française aussi, où on est plutôt sur une globalité. Aux États-Unis, ils sont bons à un truc, ils sont incroyables à un truc. Et après, si on gratte un peu, ils ont beaucoup de lacunes sur le reste. Mais c'est deux éducations qui se valent. Je sais pas si on a, je juge pas, mais j'ai l'impression que aussi dans la danse contemporaine, ça a aidé parce que ils ont vu qu'ils étaient bons à un type de mouvement et ils sont allés jusqu'au bout, sans essayer de passer par forcément la danse classique, sans essayer forcément d'être en dehors ou de tendre les pieds, et en faisant un atout au lieu d'essayer de rester dans le cadre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Enfin, je pense que ça confirme un peu ce que...
Ouais, ouais. Par rapport à la préparation du danseur, il y a beaucoup de préparation physique à côté de la barre aux États-Unis plus qu'en France. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Parce que c'est hyper intéressant de travailler de manière différente que de prendre toujours la barre.
Alors ça arrive un peu en France. J'ai entendu dire par mes anciens collègues de l'opéra que ce qu'on appelle cross-training, ça arrive un peu en France, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait depuis des années aux États-Unis. On a une salle de sport, c'est-à-dire que pour arriver dans le studio de danse, on passe par la salle de sport. Donc on arrive le matin, tous une heure avant, on fait une heure de salle de sport. On a toute notre journée de danse qui est très très intense, de 10h du matin à 19h en général, et on garde une heure le soir pour se refaire de la récup en salle de sport. C'est vraiment le truc normal qu'on fait tous. À côté de ça, on fait beaucoup de gyrotonique, ça arrive un peu en France. C'est une espèce de pilates adapté à la danse. Pilates aussi pour certains. Moi, j'ai un coach, un préparateur physique avec qui je travaille toutes les semaines. Et on adapte en fonction des rôles que je danse. Si j'ai besoin de Kitri de Don Quichotte, va demander un peu plus de sauts, donc je vais avoir besoin d'un peu plus de muscles. Si jamais il faut que je danse le lac des cygnes, comme vous avez compris, c'est pas mon ballet préféré, on va travailler un peu plus sur l'élongation, un peu moins de muscles, un peu plus sur le cambré et tout. Voilà, c'est important d'avoir quelque chose en dehors du studio de danse, en dehors des coachs, des répétiteurs et des collègues. Pour moi, c'est vrai que c'est dur, c'est contraignant, mais ça a toujours été mon espace à moi où je pouvais faire ma petite cuisine, quoi, à l'extérieur du regard des autres et avec quelqu'un qui, je sais, était bienveillant, quoi. Voilà. C'est quelqu'un que je paye, qui est là pour que je réussisse. Et c'est aussi les États-Unis, hein, c'est qu'on veut un service, on paie pour, et puis ça arrive, quoi. Voilà, quelqu'un de bienveillant qui est là pour moi, que je paye, et qui va me faire arriver là où j'ai envie d'aller, quoi. Donc, voilà, c'est vrai.
Est-ce que tu peux expliquer la différence entre, par exemple, ton statut, le statut T très, avec beaucoup de catégories, avec les montées de grades, et ce que tu es maintenant aux États-Unis par rapport au statut qui est différent de l'opéra?
Donc l'opéra de Paris est différent, enfin il y a une hiérarchie différente que le San Francisco Ballet. Il n'y a aucune compagnie dans le monde qui a la même hiérarchie que l'Opéra de Paris. Le Bolshoï à Moscou s'y ressemble un peu, mais c'est tout. Donc à l'Opéra de Paris, j'étais sujet, ce qui ressemble un peu à soliste aux États-Unis. Donc en gros, normalement, mon grade de sujet me permet d'être devant au corps de ballet. Quand il y a des danses de groupe, les sujets sont devant, c'est celle que tu vois le plus. Et d'être des fois distribué dans des pas de trois, des petits pas de deux, comme ça. Des rôles secondaires, toujours. Voire le troisième rôle. Secondaire, si j'ai de la chance, troisième rôle, en général. J'ai eu la chance à l'opéra d'avoir une carrière un peu particulière. C'est-à-dire qu'en tant que sujet, j'ai fait... Tous les ans, j'avais des rôles d'étoiles. Voilà, j'ai eu de la chance et j'avais la directrice de l'Opéra de Paris à l'époque, Brigitte Lefebvre, j'avais son soutien et son amour un peu, je crois. Elle m'a beaucoup poussée et c'est parce qu'elle m'a donné le goût de danser des rôles d'étoiles, donc de danser des premiers rôles, que je ne pouvais pas me contenter de rester sujet, en fait. Je pense que si elle ne m'avait jamais donné de rôle d'étoile, je me serais dit « bon, bah, sujet, c'est bien. De temps en temps, j'ai le droit à des seconds rôles, c'est super, je suis contente, voilà. » Mais comme elle m'a donné ça, c'était à la fois un cadeau et à la fois un cadeau empoisonné, parce que une fois que tu as goûté au premier rôle, c'est dur de repartir au fin fond du corps de ballet, quoi. Et je l'ai fait, hein. Je me souviens d'un spectacle en matinée. Donc à 14h, je dansais le rôle d'étoile et à 20h, j'étais au fin fond du corps de ballet et c'est dur psychologiquement, quoi. Je me demande même, avec le recul, est-ce que c'était pas fait exprès? Est-ce que c'était pas pour elle la façon de m'indiquer qu'il fallait que j'aille ailleurs, que j'étais un peu bloquée ici, quoi? Parce que psychologiquement, personne ne peut résister à ça. À tout d'un coup, avoir 3000 personnes qui nous applaudissent et vraiment, quelques heures après... Mes parents ne pouvaient même pas me reconnaître dans le groupe, quoi. Ma mère est venue souvent me voir danser, elle ne me reconnaissait pas. Hein. Elle me disait « Ah, t'étais bien, t'étais à gauche ». Non, j'étais tout le temps à droite, maman de la scène. C'est pas grave. « Oh, t'avais une robe rouge ». Non, j'avais la jaune. C'est pas grave, j'étais dans le lot. C'est dur, quoi, parce que quand on fait de la danse, on fait pas de la danse pour... Quand on est petite fille, on veut être reconnue en général, quoi. On ne sait pas que la majorité des danseurs sont dans le corps de ballet et ne sont pas reconnus. Le travail d'un corps de ballet, c'est d'être en ligne, en fait. Et c'est, on fait bien son travail si on est dans le corps de ballet, si on ne nous voit pas. Si on nous voit, c'est qu'on ne fait pas bien son travail. C'est qu'on a dépassé de la ligne et ce n'est pas bien. On va se faire engueuler. Donc, c'est dur, quoi, psychologiquement, de se dire « Putain, je fais un métier où le but de mon métier, c'est qu'on ne me voit pas. » C'est dur, quoi. Donc, moi, j'avais goûté à quelque chose d'autre et j'arrivais pas à retourner dans le rang, quoi, en fait. Vraiment, quoi. Donc, mon pour répondre à la question un peu, le statut de... au San Francisco Ballet, c'est que je suis danseuse étoile. Donc, j'ai... au San Francisco Ballet, il y a corps de ballet soliste et principal. Donc, en fait, il y a corps de ballet, sujet, danseur étoile. Il n'y a pas trop les entre-grades qu'il y a à l'opéra. Mais voilà, j'ai le même statut qu'une danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Donc, c'est chouette. J'aurais pu faire très court, mais je vais très long. C'est pas grave.
Ce sont des contrats d'un an, renouvelés tous les ans, même pour les étoiles.
Oui, c'est très difficile quand on vient d'une compagnie ou à l'Opéra de Paris, c'est des CDI. Donc en gros, c'est des contrats à vie, quoi. Donc, j'ai signé mon contrat, j'avais 16 ans et jusqu'à 42 ans et demi. Puisque à base, les femmes, c'était 40 ans et les hommes, 45, on a coupé la part en deux. Et là, et quoi qu'il arrive à l'opéra, pour être viré, il faut vraiment, vraiment, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'on peut s'arrêter en... indéfiniment en arrêt maladie. Enfin, c'est très très difficile d'être envoyé à l'Opéra de Paris, alors qu'au San Francisco Ballet, en mois de mars, tous les ans, on reçoit une lettre ou pas, en disant qu'on est renouvelé l'année d'après. Il va falloir aller négocier et signer son contrat au mois d'avril. Et ça arrive très souvent. Enfin, tous les 2-3 ans, il y a 50% de la compagnie qui change. Voilà. Après, là, avec Covid, ça a changé un peu, mais ouais. Honnêtement, j'ai toujours une petite appréhension au mois de mars. Je suis là, bon, elle arrive la lettre ou... Même si je sais que, en tant qu'étoile, je pense qu'ils auraient la courtoisie de me prévenir verbalement, mais c'est arrivé que non. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu stressant. Ouais. Et en même temps, je sais pas, j'aime pas trop dire ça, mais je me pose la question, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, enfin, je ne sais pas trop ce que j'en pense moi-même, mais des fois, pour être... je trouve qu'en tant qu'artiste, un peu moins de confort amène un peu plus de création et un peu plus de motivation. J'ai l'impression que quand il y a un instant de survie, il y a création. Quand il y a confort, il y a un peu moins de création. Toutes les peintres, tous les musiciens étaient des crevés la dalle en fait hein, à l'époque. Hein. Il y avait, je sais pas s'il y avait beaucoup de grands compositeurs de musique classique qui étaient riches. Je sais pas s'il y avait beaucoup de grands peintres qui étaient riches de leur vivant quoi. Le fait d'avoir un contrat d'un an pousse les danseurs à se dépasser constamment parce que on peut avoir un mois un peu off, 2 mois ok, mais pas 3. Hein. Si on a 3 mois sur une saison qui dure 9 mois, c'est fini, quoi. En tant qu'étoile, on peut avoir une année un peu... OK, bon, c'était un peu dur cette année, mais pas deux, quoi. Voilà. Donc, ça force à se dépasser tout le temps. Après, je sais même pas si je suis d'accord avec ce que je dis moi-même, mais j'ai un peu du mal avec l'idée du confort et des artistes. Et en même temps... c'est désagréable de se dire qu'il faut qu'on ait un couteau sous la gorge pour créer, quoi. C'est pas... Je sais pas. C'est aussi agréable en France de se dire qu'on peut avoir des passages à vide en tant qu'artiste. Et créer quand, justement, on a des passages à vide. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment l'exception culturelle et c'est magnifique. Mais des fois, je me demande, est-ce qu'en tant que danseur, des contrats à vie... c'est nous faire du bien ou pas. Je sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je me demande. La réponse au prochain épisode. Merci.
Voilà. La réalisation de ce documentaire radiophonique a été rendue possible grâce à Karen Juan, au Conservatoire des Landes, à Mathilde Froustet, Marlo Praet, Noah Lafitte, Liana, Lali, Emeline, Dominique Perron et Laetitia Valade.
Avec l'aimable participation de Christelle Montigny et Nico à la technique.